La fraternité en question, appelez-la comme vous voulez, puisqu'il est question de changer son nom, le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes préférait qu'on parle d'Adelphité, si vous voulez. Mais parlez pas de solidarité, parce que ce serait cynique. Après tout, il existe, vous le savez, encore un délit de solidarité, même assoupli par cette loi Asile et Immigration qui vient d'être votée. Jusqu'à 5 ans de prison et 30 000 euros d'amende pour toute personne qui aura, par aide directe ou indirecte, facilité ou tenté de faciliter l'entrée, la circulation ou le séjour irrégulier d'un étranger en France. Avec cette petite nouveauté qui autorise une aide à la circulation sans pour autant que l'article soit levé, parce qu'on soupçonne toujours, vous comprenez, ce genre d'action d'être militante, parce qu'il faut bien, quand on fait preuve de solidarité, qu'il y ait une contrepartie idéologique résistante, parce que la fraternité, qu'il serait donc problématique d'appeler solidarité, ne souffre pas d'aider un étranger, c'est écrit dans la loi. Alors il faut s'interroger effectivement sur cette devise républicaine qui est la notre liberté, égalité, à vous de compléter.
Boomerang. Augustin Trapenard.
Bonjour à tous, bienvenue dans Boomerang, mon invité d'aujourd'hui ose la fraternité. Presque 30 ans après la création du festival Étonnant Voyageurs, dont la prochaine édition se tiendra à Saint-Malo du 19 au 21 mai prochain, il continue de militer pour une littérature monde, mais aussi pour ses valeurs d'hospitalité et d'humanité. Avec Patrick Chamoiseau, il a réuni une trentaine d'auteurs pour la création d'un bel ouvrage dont l'intégralité des droits seront reversés au GISTI, groupe d'information et de soutien aux migrants. Bonjour Michel Leroy. Merci beaucoup d'être là.
Merci à vous.
Le mot fraternité, il a encore un sens aujourd'hui?
Il faut lui donner un sens. Et puis, il a un sens pour beaucoup de gens, beaucoup plus de gens qu'on ne croit en réalité.
S'il faut lui donner...
Comment?
S'il faut lui donner, c'est quand même qu'il y a un problème.
S'il faut lui donner un sens. Oui, bien sûr. Non, mais il faut toujours lutter pour... Les choses ne vont pas de soi, ça n'est jamais un acquis. Et c'est... comment dire? Un homme politique... forcément se retrouve avec un curseur. Savoir où le placer sur l'accueil. Et c'est quelque chose d'insupportable. Vous êtes en mer, des gens tendent la main pendant qu'ils se noient. Vous en faites monter à bord quelques-uns. Et puis, quelqu'un vous regarde dans les yeux et tend la main. Et vous lui dites, franchement, non, désolé, on a atteint le quota. Parce que c'est ça la vraie question. Qu'est-ce que c'est qu'un être humain? Qu'est-ce que c'est que l'humanité? C'est ce moment-là. Pour le politique, son curseur, c'est simple. Quel que soit, je suspecte pas les uns ou les autres. Mais il aura toujours, aussi accueillant se voudrait-il, qu'il aura toujours ce choix. À quel moment je suis en train de faire le lit du Front National, parce qu'on voit bien ce qui se passe en Europe. Mais la place où il mettra le curseur dépend de nous, dépend de la mobilisation de tous, dépend des écrivains, de toutes ces associations, qui tout ce travail pour justement émouvoir, expliquer, faire progresser cette idée de fraternité, la réveiller en chacun. Il y a tellement de peurs absurdes chez des gens. Nous sommes les 16e, je crois, dans le classement européen des pays en termes d'accueil de migrants.
On a de la marge.
Et à écouter les discours, c'est comme si nous étions envahis. Enfin, il faut arrêter de déconner.
Vous parlez avec Patrick Chamoiseau, Michel Lebris, de la misère dans laquelle s'est échoué l'imaginaire politique dominant. Qu'est-ce que vous entendez par là?
Parce que je pense que quand on parle de fraternité, etc., c'est un sursaut de l'imaginaire. Ce que font les écrivains, ils ne sont pas des hommes politiques, c'est qu'il y a... La société est en crise, on voit bien qu'elle a tendance à se fragmenter, etc. Il y a un imaginaire de l'être ensemble à recréer. Et ça, c'est le propre de l'écrivain. Ce que peut l'écrivain, c'est contribuer à cet imaginaire de l'être ensemble.
Par l'émotion, par la création?
Par la création. Regardez le pouvoir, parce qu'on dit toujours la citoyenneté, la loi, etc. C'est nécessaire pour une société. Mais il y a à côté tout le reste, qui est la culture, qui est la création artistique, qui est la part poétique de l'être humain qu'il faut continuellement réveiller. Regardez dans les choses les plus simples, l'enterrement de Johnny Hallyday, la disparition de France Gall. Vous voyez l'émotion tout d'un coup, parce que le pouvoir d'une chanson, de l'expression de la singularité d'une personne et qui peut parler au plus grand nombre, c'est ça le miracle de la création.
Précisément, dans le texte d'introduction que vous avez écrit avec Patrick Chamoiseau, vous parlez de la photo du petit Elan Kurdi, échoué sur une plage de Turquie, et de Qu'est-ce qu'elle a provoqué comme réaction? D'effroi, d'émotion et de refus total aussi de cette situation de la part du public. Vous dites que ce sursaut a été éphémère, Michel Lebris. Comment le rendre durable? C'est ça la question.
Le rendre durable par la multiplication des textes, des œuvres, des mobilisations, des gens. Voilà, c'est aussi simple que cela. Il n'y a pas il n'y a rien d'acquis, de permanent, etc. Voilà, il s'agit de créer un imaginaire de l'être ensemble dans les temps présents. On voit bien à quel point, regardez tout ce qui se passe autour des banlieues, des fractions que manifestent des prises de position, des manifestes dans les journaux, etc. On voit bien cette fragmentation, le danger des communautarismes, les replis sur soi, et c'est pas seulement les quartiers où la jeunesse musulmane, elle est partout, cette tentation du repli sur soi. C'est pour ça que l'artiste peut contribuer à accroître le niveau de générosité, en fait, que chacun se sente plus fraternel. Voilà, c'est...
J'aimerais, si vous le voulez bien, vous faire entendre la voix d'un écrivain qui a participé à votre ouvrage, Michel Lebris, et qui nous lisait en avant-première une grande partie du texte qu'il vous a destiné. C'est Jean-Marie-Gustave Le Clézio, le prix Nobel de littérature. C'était le 5 octobre dernier à ce micro.
La migration n'est pas, pour ceux qui l'entreprennent, une croisière en quête d'exotisme, ni même le leurre d'une vie de luxe dans nos banlieues de Paris ou de Californie. C'est une fuite de gens apeurés, harassés, en danger de mort dans leur propre pays. Pouvons-nous les ignorer, détourner notre regard, accepter qu'ils soient refoulés comme indésirables, comme si le malheur était un crime et la pauvreté une maladie ? On entend souvent dire que ces situations sont inextricables, inévitables, que nous, les nantis, ne pouvons pas accueillir toute la misère du monde, qu'il faut bien des frontières pour nous protéger, que nous sommes sous la menace d'une invasion, comme s'il s'agissait de hordes barbares montant à l'assaut de nos quartiers, de nos coffres-forts, de nos vierges.
Mais ce que dit Jean-Marie Le Clézio, Michel Lebris, c'est qu'il en va de notre responsabilité.
Ben évidemment. Mais oui, nous sommes responsables du monde, à chaque instant.
Et à ceux qui vous diront, celles et ceux qui vous diront que vous êtes confortablement assis, installé, dans votre confort bobo ou bourreau, qu'est-ce que vous répondez?
Oui, mais il y en a qui sont confortablement assis et qui détournent les yeux pour ne rien savoir de ce qui se passe. Et puis, il y en a d'autres à la mesure de leurs moyens, et jamais assez, mais enfin quand même, n'acceptent pas l'ordre du monde, n'acceptent pas la situation.
Et à celles et ceux qui entendraient dans ces paroles, dans celles de Jean-Marie Le Clézio, dans la vôtre, mais aussi dans bon nombre de nos invités, je pense à Ariane Ascaride ou Dominique Blanc à ce micro, quelque chose de culpabilisant, qu'on nous culpabilise. Qu'est-ce que vous répondez?
Si on se sent coupable, c'est l'indice d'un problème pour la personne qui se sent coupable. La question n'est pas là. C'est d'un élan positif qu'il s'agit, parce que la culpabilité va avec le repli sur soi, en fait. C'est d'un élan positif, d'une main tendue, d'une colère aussi parfois, voilà, c'est tout cet ensemble là, ces mille voix, parce que les voix des artistes, voilà, c'est aussi la caisse de résonance de milliers d'autres voix. Il n'y a pas d'autres, et je ne parle pas là de tout le travail silencieux de dizaines, de centaines, de milliers d'associations dans les endroits les plus reculés. Je veux dire, il y a tout ce travail là qui vise à transformer les consciences. Combien de fois dans ces situations-là, les gens ont vu arriver avec effroi ces fameux étrangers, etc. Puis ils découvrent que ce sont des gens, que ce sont des êtres humains. Tiens, ils sont comme nous quand même. Ben oui, ils sont comme nous, différents et comme nous. Comme sont toutes les personnes humaines, c'est tout. Il y a une perte du sentiment d'humanité. Ça, clairement, dans les fractures multiples, on vit un basculement de monde. C'est pour ça aussi qu'il y a cette grande inquiétude. C'est l'inconnu de ce qui vient. Et le migrant, c'est juste la figure sur laquelle on colle tout cette part d'inconnu. C'est pour ça qu'il faut apprendre à habiter le monde, réhabiter le monde.
Celle qui habite le monde dans cette émission, vous la connaissez peut-être, Jean, mon cher Michel Lebris, c'est la culture, évidemment, et son actualité très trop humaine parfois. Que se passe-t-il donc aujourd'hui, vendredi 27 avril, jeudi 26 avril, pardon.
Je déclare ouvert
33e
Festival
International
des modes
de hier.
Hier, ça commence dès aujourd'hui, le Festival international de mode et de photographie de Hier dans le Var. Formidable tremplin pour les jeunes créateurs, s'installe jusqu'au 30 ans dans la mythique Villa Noailles, présidée notamment par Aïdar Ackerman et Bettina Reims. Trois compétitions devront départager, stylistes, créateurs d'accessoires et photographes prometteurs. Côté français, on mise sur les jeunes et talentueux Esther Manas, Flora Fixier et Julia Dessiri ou Ludovic Léger. Go les genoux.
Le moment suspendu, c'était l'esthétique, même moins l'esthétique de la photo, on peut dire. C'est-à-dire que les caractères qui sont dans la photo donnent l'impression qu'ils ont continué à faire ce qu'ils faisaient avant que je freine la photo.
Abbas est passé, le photographe français d'origine iranienne, pilier de l'agence Magnum Abbas Attar, est mort hier à Paris. Il avait 74 ans, reporter de guerre chevronné. Il avait commencé sa carrière en immortalisant la révolution iranienne de 79. Suivant ensuite les remous du monde, il braqua son objectif sur les conflits au Biafra, au Bangladesh, au Moyen-Orient ou en Afrique du Sud, au temps de l'apartheid. Il restera comme l'artiste engagé d'un noir et blanc majestueux. Adieu.
Un scandale.
Après une très vive polémique en Allemagne, les échos équivalents de nos victoires de la musique ont été supprimés hier. En cause, la récompense attribuée à deux rappeurs, auteurs de textes antisémites. Dans un contexte très tendu, après une agression antisémite la semaine dernière dans la capitale allemande et la marche de la Kippa d'hier, les organisateurs des prix échos ont jugé que leur marque avait été endommagée par le scandale et que cela nécessitait un nouveau départ total. L'écrivain et poète palestino-jordanien Ibrahim Nasrallah a remporté hier le prix international de la fiction arabe 2018. Pacifiste engagé, l'auteur qui est aussi peintre et photographe a été récompensé pour son roman The Second War of the Dog, une dystopie futuriste qui nous plonge dans un monde où les valeurs morales et humaines se sont perdues et où même les âmes sont à vendre. Pour l'instant, Ibrahim Nasrallah n'a pas d'éditeur français, gageons que ça devrait pas durer. Et l'écrivain Michel Lebris, fondateur du festival Étonnant Voyageur de Saint-Malo, dont la prochaine édition, je disais, se tiendra du 19 au 21 mai prochain. L'un des objectifs de ce festival, Michel, c'est de rendre visible ce que vous appelez une littérature monde. C'est un terme très important pour vous comprendre, pour comprendre votre conception de la littérature.
Mais si l'idée centrale du festival, il a été créé en 90, à une époque, on l'a oublié, mais à quel point la littérature française était repliée sur elle-même, débris des avant-gardes d'un côté et la contemplation éperdue de son nombril de l'autre, quoi. Alors que c'est le premier édito en 90, je disais, mais un monde est en train de disparaître. Un autre vient fascinant et inquiétant, et ce sont les artistes qui ont la capacité à donner les mots, les sons, les rythmes, etc., à donner un visage à l'inconnu de ce qui vient. Et à ce niveau-là, ils remplacent. Moi, j'ai été étudiant dans les années précédant 68. Je me souviens bien sûr de la fameuse phrase de Vincent Pontet : la France s'ennuie quelque temps avant les barricades. Il valait mieux écouter Bob Dylan pour savoir ce qui se passait dans la jeunesse. Ce sont les artistes toujours qui ont un temps d'avance à ce niveau, à ce niveau-là. Et c'est vrai, c'était particulièrement vrai à ce moment-là. Et donc, c'était un festival, d'une littérature entretenant un rapport d'incandescence avec le monde. Et donc, ça a été tout de suite Jim Harrison, Alvaro Mutis, etc. On disait littérature du voyage. Non, pas seulement, parce que ceux-là n'ont jamais écrit de récits des voyages. Mais par contre, ce rapport au monde, cette poétique du monde, ce souci de l'autre, des autres cultures, etc. Oui, et c'était aussi le lieu de grande amitié avec Nicolas Bouvier, des gens comme cela. Mais ça n'a les écrivains, la résonance a été immédiate. Ils sont arrivés de partout. Aujourd'hui, vous savez, c'est 250 écrivains
du
de
monde
40,
entier.
50 pays, oui, du monde entier. Et ça finit par faire une sorte de grande famille.
Mais si on revient à vous, Michel Lebris, dans quelle mesure est-ce que l'omniprésence de la mer a été un catalyseur de création dans l'écrivain chez l'écrivain que vous
êtes. Moi, je suis devenu écrivain face à la mer.
Comme s'il y avait un dialogue, en fait, secret entre vous deux.
J'étais dans un endroit très isolé, un gamin tout seul, fasciné par, vous savez, l'hiver, les tempêtes. Mais vraiment, quand toutes les puissances du monde hurlent dehors comme ça, on est effrayé, on est fasciné en même temps. Et puis, quand j'ai 10 ans, j'ai découvert Victor Hugo, j'ai découvert plusieurs auteurs comme ça, Melville, Stevenson, Conrad à peu près. Et j'ai su que ce dont il parlait, c'était le mystère de cette puissance énorme du monde là-dehors. Qui est toute la mer, c'est toute la puissance de création du monde.
Et c'est la langue
toute la puissance de destruction du monde. Et la langue a ce pouvoir de faire monter en soi cette puissance-là et de faire qu'elle soit créatrice et pas simplement destructrice. Et ça, c'est au cœur de toute mon entreprise philosophique, romanesque, etc., qui m'a amené à faire ce festival aussi.
Et là, en vous écoutant, je pense à un poème de Jean Rouault qui s'appelle « Fortune de mer » et qui figure parmi les textes du recueil « Osons la fraternité » que vous avez co-dirigé. Et j'aimerais le lire, si vous voulez bien, parce qu'il est très court. « Seigneur, dites seulement une parole, et le peuple qui marche sur l'eau aura de la terre ferme sous ses pieds, un toit pour ne pas mêler ses larmes aux vagues, et une table d'hôte à l'enseigne de notre inhumaine humanité. » C'est une prière, en fait.
Et c'est un beau poème.
Mais alors comment on fait, Michel Lebris, pour rendre l'humanité plus humaine, précisément?
Je crois que chanson, poème, roman, ont ce pouvoir d'éveiller en chacun quelque chose que l'ordinaire des jours éteint. Justement, ce que je répète souvent, c'est « nous sommes plus grands que nous ». Tout d'un coup, qui n'a pas, écoutant un air, une musique, une grande Mozart, tout ce que vous... Tout d'un coup, senti comme ça, transformé. Il y a soulevé de terre, bouleversé. Il y avait donc ça aussi en moi que j'ignorais. Je ne suis pas réductible au statut de producteur, de consommateur. Il y a ça. Et ça... C'est toujours une expérience très très forte. Elle a été fondamentale, fondatrice pour moi. La découverte de la littérature quand j'étais gosse a été comme une espèce de délivrance tout d'un coup. J'étais pas seul. Et ce qui... quelque chose s'éveillait en moi et j'essaye de maintenir cette musique-là. Je crois qu'il en va ainsi de tout le monde. Tout le monde a cette part secrète, tout le monde a besoin de fiction, de musique, etc. Mais tout dans la vie fait qu'on ne regarde plus le ciel, on ne pense plus aux étoiles, on se demande pas qu'est-ce qu'il y a au-delà, on ne s'émerveille plus, on est dans le quotidien, le tic-tac des horloges, les heures grises, comme ça. Et puis il y a cette partie-là qu'il faut réveiller en chacun, parce que c'est par cette partie-là que l'on communique avec les autres, qu'on crée de l'être ensemble. C'est à la fois rien et c'est à la fois tout.
Alors réveillons-nous ensemble, Michel Lebris, ce matin, avec cet hymne à la fraternité, par exemple, qui était signé Dire Straits. C'est peut-être l'une de leurs plus belles chansons. Brothers in Arms, que reprenait Joan Baez en 1987. Vous êtes sur France Inter avec Michel Lebris. Vous écoutez Boomerang. These mist-covered mountains are a home now for me. But my home is the lowlands, and that always will. Someday you'll return to your valleys and your farms, and no longer burn to be brothers in arms. Destruction.
Boomerang sur France Inter. Augustin Trapenard.
Alors il a, vous savez, cette âpreté, cet air un brin méfiant et malin de vieux loup de mer breton, quelque part entre le capitaine Haddock et la bigoudaine Tipiac. Mais parlez-lui une seconde, et voilà qu'il devient aussi chaleureux, sympathique et généreux qu'un kouign-amann ou qu'une galette double beurre sans trop de beurre. Cheveux longs, barbe fournie, petites lunettes carrément mimi, tout en bleu. Marine, ce matin évidemment, Michel Lebris, invité de Boomerang, pour la sortie de la semaine prochaine d'Osons la Fraternité. Cette initiative, il faut le dire, elle témoigne chez vous, j'ai l'impression, d'un goût pour la révolte. C'est un mot que vous avez cité la première fois que vous avez fait l'expérience du sentiment d'injustice. Vous en souvenez ?
Oui.
C'était quoi ? C'était quand ?
Ma mère. Ma mère qui a eu vraiment une vie très très difficile, qui à l'âge de 10 ans, elle vivait avec sa mère, veuve de guerre, elle l'a trouvée paralysée dans le jardin. Elle a dû réussir à la mettre dans une brouette pour la mettre sur son lit, et sa vie a été finie d'une certaine manière. À 10 ans, elle a dû chercher du travail. Et c'était pas une époque où il y avait les protections sociales d'aujourd'hui. Elle a dû se débrouiller seule, mais en plus se retrouver ensuite, comme on disait à l'époque, fille-mère en milieu rural. Il faut pas trop me chanter les charmes des communautés transparentes. Hein. C'est, je sais ce que c'est, là, cette dureté-là, ce sentiment de l'injustice terrible devant sa vie détruite comme ça.
Et votre
ça,
révolte littéraire, elle vient de là aussi ?
Tout vient de là, et puis après, c'est le tempérament de chacun, mais quand j'ai vu cette humiliation du châtelain, de la part du châtelain, etc., qui régnait en maître sur toutes ces... Vous savez, c'était une France à l'époque, il n'y avait pas d'électricité, pas de route goudronnée, pas d'eau courante, il y avait de l'eau qui filait par les toits.
Mais quelle a été votre façon de vous révolter,
Michel Lebris ? Je me suis dit, jamais. Jamais je ne céderai. Jamais je n'accepterai ça. Je n'ai jamais accepté.
Par l'école aussi ? Par les études ?
Par l'école d'abord, parce que j'étais la revanche sur l'existence pour ma mère. Et donc pour moi, je me serais senti un criminel si je n'avais pas été premier partout.
Oui.
Donc j'ai été premier partout. L'école, le livre, ça a été ce par quoi je me suis construit. Mais c'est pas une question de révolte, c'est une question de se tenir droit et de dire... Je ne céderai jamais.
Mais ça, c'est un programme d'écriture aussi.
Je n'ai jamais
cédé. J'ai l'impression, chez vous.
Oui, oui.
Ça consiste en quoi ?
Mais je me suis mis à l'écart, d'une certaine manière. Je n'ai pas choisi la facilité. À la limite, dès quand j'ai commencé, chez Grasset, Françoise Verny, que j'aimais beaucoup.
Grande éditrice.
J'ai chéri, enfin bref, elle voulait tracer le chemin de ma gloire. J'aimais pas le monde littéraire. Donc j'ai choisi de continuer à écrire, mais relativement à l'écart. Et j'ai construit ce festival à l'écart, contre le milieu littéraire français, contre les modes littéraires de l'époque. J'ai créé le monde littéraire que moi j'aimais bien. C'est-à-dire les gens qui viennent, les auteurs, invités à ce festival. Et quand je regarde la trajectoire du festival, on est resté fidèle à cette idée de départ aussi. Je me suis construit ma vie comme ça, voilà.
Et le milieu littéraire s'est réconcilié avec vous, non ?
Oui, un peu. Pas forcément, quand même, disons, je sais des résistances. Et ça n'a strictement aucune importance, je m'en fiche totalement, sinon j'aurais fait un autre choix. Et je l'aurais réussi aussi, je le sais. Mais voilà, j'ai choisi ce type de vie et je suis un peu fier parfois d'avoir effectivement, ne pas avoir cédé sur ce en quoi je croyais.
Nous sommes plus grands que nous. Cette phrase que vous avez dite tout à l'heure et qui résonne en moi, c'est le titre de ce court texte que vous avez écrit pour l'occasion. Et je vous en remercie pour ce matin, Michel Lebris. Vous voulez bien nous le lire pour terminer cette émission ?
Je ne suis peut-être pas un grand lecteur, mais je vais quand même essayer. Le monde est parcouru de lignes de champ, écrit Bruce Chatwin, un écrivain anglais, dans le champ des pistes, reprenant un mythe d'aborigène australien. De lignes de champ que chacun doit parcourir sans cesse, et sous ses pas, en écho à son chant, chaque chose nommée, oiseau, plante, roche, s'éveillera. Mais que les hommes un jour interrompent ce chant, et le monde alors cessera d'exister. Belle métaphore qui assigne au chant, au poème, le rôle de tenir le monde debout. Le poème, combien de divisions, ironiserait Staline, pourtant si pressé, d'expédier des artistes au goulag. Oui, le poème, qui rappelle obstinément qu'aucun de nous n'est réductible au consommer et au produire, qu'il est en chacun une dimension qui y échappe. Si tel poème, écrit il y a 1000 ans en Chine, peut traverser les siècles, les aires culturelles, la barrière des langues, pour parler encore au présent de chacun, c'est qu'il est en lui, en toute œuvre, une dimension de transcendance. Et si tel est le cas, alors il faut bien la dire présente en son créateur, et en celui qui la reçoit au présent, autrement dit, en chacun. En mes années étudiantes, nos maîtres penseurs professaient que tout texte, entendez aussi tout homme, est déterminé par ses contextes. Comme tous les jeunes, j'étais alors une éponge pressée d'absorber les thèses à la mode. Mais déjà, je me cabrais contre celle-ci. Un texte, pour moi, est ce qui s'arrache à ses contextes pour parler universellement par-delà les âges. Non, nous ne sommes pas de part en part déterminés. Ce sont les choses qui le sont. Certes, nous le sommes pour une part, mais nous ne sommes pas des choses. Nous sommes mus aussi par des buts, par nos rêves, par nos désirs, notre capacité de nous tenir droit face à ce qui prétend nous contraindre, ce que j'appelle le poème en nous. Cette part, éveillée tout à coup, qui nous révèle plus grand que ce à quoi l'ordinaire des jours prétendait nous réduire. Le poème, fragile et nécessaire, pour nous rappeler, contre les machines de mort, ceci, nous sommes plus grands que nous.
Merci, Michel Lebris, pour ce texte inédit. Merci d'être venu faire un tour dans Boomerang ce matin, pour la force de votre parole aussi. Osons la fraternité avec les textes de Kaotera Dimi, Laurent Godet, Léonora Miano, Jean Rouault ou encore Claudio Magris et JMG Le Clésio sur la semaine prochaine. Merci beaucoup d'être venu encore tout de suite les médias. Sonia De Villa, juste après ça.
Enfin de pas eu de bruit, il n'y a pas eu d'éclat. Seulement deux épaules qui se frôlent et une lumière qui glisse. Une eau en offrant. Alors c'est un ça.
Bagallo, l'offrande sur France Inter et tout de suite c'est Sonia De Villard, les médias.